Vous écoutez, on lit pour vous.
Accessibilité et handicap, c'est comme le jour de la marmotte. Un texte de Megan Harvey, paru le 23 septembre 2025 dans Le Soleil. Pour les personnes handicapées, les revendications sont presque toujours les mêmes. Toilettes adaptées, accès au commerce, trottoirs dégagés. Citation. C'est comme le jour de la marmotte, finalement. C'est toujours les mêmes revendications. Fin de citation, résume Julie Montreuil du Carrefour familial des personnes handicapées. Les membres du Carrefour familial des personnes handicapées attendaient fermement le soleil dans ses locaux du quartier Saint-Roch. Feuille en main, les 6 personnes autour de la table étaient bien déterminées à se faire entendre en marge des élections municipales. Citation. Les revendications qu'on a, ça fait 4 ans qu'on essaie que les personnes en place, les élus, en fassent quelque chose. Fin de citation, lance d'emblée Julie Montreuil, directrice des services cliniques au Carrefour familial des personnes handicapées. Pour elle, cet enjeu n'a jamais semblé être une priorité pour Bruno Marchand. Citation, « Je n'ai jamais senti que c'était si important le handicap pour lui. C'est bien beau les espadrilles, les chou-claques, la course à pied, les vélos. » Mais la marche piétonnière et les personnes qui se mobilisent activement, mais pas par ces moyens-là, elles sont laissées pour compte. Fin de citation, ajoute-t-elle. L'organisme qui a fêté ses 75 ans en 2024 a pour mission de favoriser l'autonomisation et l'éducation populaire, ainsi que de lutter pour de meilleures conditions de vie et la défense des droits des personnes handicapées. Citation. Les personnes qui sont handicapées, ce sont des citoyens de la ville, et on ne s'en occupe pas du tout. Fin de citation, dénonce Odette Lavoie, une usagère du Carrefour. Près d'1,5 million de Québécois de 15 ans et plus, soit 21% de la population, vivent avec une incapacité limitant leurs activités quotidiennes, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité réalisée en 2022. Dératé côté accessibilité. Au quotidien, les irritants sont multiples. Pancartes, bacs sur les trottoirs en mauvais état transforment la ville en parcours d'obstacles. Citation. Quand tu es en quadriporteur ou en chaise roulante, tu as ça dans les jambes. Fin de citation, illustre Alexandre Maheu, qui se déplace en fauteuil roulant. L'accès aux commerces et terrasses reste un autre combat de l'organisme. Selon la directrice, la ville avait d'abord accepté de se pencher sur la question avant de reculer. Citation. Ils ont dû se dire « On va perdre les commerçants, on va perdre des taxes ». Fin de citation, croit-elle. La bibliothèque Gabriel Roy, pourtant saluée à l'international, est aussi montrée du doigt par l'organisme. Malgré l'existence d'un guide municipal qui précise les normes d'accessibilité à suivre, de grosses erreurs y sont observées. La plus frappante concerne la signalisation. Citation. Une des choses à ne pas faire, c'est d'écrire les choses en gris sur fond blanc, parce que ça manque de contraste pour les personnes qui ont des limitations visuelles. Dans la bibliothèque, tout est gris sur fond blanc. Fin de citation, dit Julie Montreuil, exaspérée. Porte de toilette non adaptée, équipement installé en retard et d'autres erreurs flagrantes aggravent la frustration. Pour Mme Montreuil, cet exemple illustre que ce ne sont pas encore des dossiers qui vont faire la une, malheureusement. Citation, c'est des choix politiques. C'est sûr qu'on n'est pas dans la ligne de mire. On n'amène rien au maire. Fin de citation, tranche-t-elle. Vous n'existez pas. Pour Julie Montreuil, la Ville de Québec envoie de mauvais signaux. Elle cite une vidéo municipale sur l'inclusion où aucune personne handicapée n'apparaît. Citation. C'est complètement absent. Est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez d'inclusion et que vous ne faites pas de représentation de personnes handicapées? Fin de citation, dit-elle. Citation. En fait, ils évitent de vous discriminer. Vous n'existez pas. Ils vous invisibilisent. Fin de citation, tranche Cathy Chassé, intervenante socio-communautaire au Carrefour à l'intention des personnes en situation de handicap. Pourtant, la loi oblige les municipalités à adopter des programmes d'inclusion, rappelle l'organisme. Citation. C'est quelque chose qu'on avait demandé, que j'ai travaillé là-dessus il y a 3 ans. Ellipse. Finalement, c'est encore la même vidéo avec la même page. Il n'y a rien de changé. Fin de citation, constate la directrice des services cliniques. Face à cette invisibilisation, plusieurs personnes handicapées finissent par s'auto-exclure de certains espaces publics. Citation, « Ça fait longtemps que je m'étais auto-exclue dans la vie, mais je ne le réalisais même pas. Pour moi, c'était la normalité. » Fin de citation, confie Andréane Gagnon, elle-même en situation de handicap. Citation, « Pourquoi on veut camoufler les personnes handicapées encore comme dans l'ancien temps, les mettre dans les garde-robes? Ça, je ne suis pas capable de comprendre ça. » Fin de citation, s'indigne Odette Lavoie. Changer d'administration améliorerait-il les choses? Madame Montreuil reste prudente. Citation, ça prend du temps avant de comprendre c'est quoi l'accessibilité et de vraiment bien le saisir. Un changement d'administration pour l'accessibilité comme telle, je ne suis pas certaine qu'on s'en sortirait mieux. Fin de citation, ajoute-t-elle. C'était Accessibilité et handicap, c'est comme le jour de la marmotte. Un texte de Megan Harvey, paru le 23 septembre 2025 dans Le Soleil.
Le Tylenol ne cause pas l'autisme, contrairement à ce que dit Trump. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 22 septembre 2025 dans Le Devoir. Affirmant avoir trouvé l'une des causes de l'autisme, Donald Trump a appelé lundi les femmes enceintes à ne plus prendre d'acétaminophène, mieux connu sous le nom commercial de Tylenol, car ce médicament serait, selon lui, l'une des causes de l'autisme. Une affirmation immédiatement réfutée par les experts interrogés par Le Devoir, ces derniers citant l'absence d'études scientifiques soutenant la thèse avancée par le président américain. Lorsque questionné à ce sujet, la docteure Valérie Courchêne est catégorique. « Non, vraiment pas », sont les premiers mots à sortir de sa bouche. Il y a une étude récente qui démontre, avec environ 80 000 femmes enceintes qui ont pris du Tylenol pendant leur grossesse, qu'il n'y a non seulement aucun lien avec l'autisme, mais il n'y a pas non plus d'effet en fonction de la dose, poursuit cette neuropsychologue dont les recherches portent notamment sur ce trouble neurodéveloppemental. Ce sont vraiment des indices super forts qui nous disent qu'il n'y a aucun lien, soutient celle qui est également professeure adjointe à l'Université de Montréal. Même constat du côté du docteur Laurent Motron, titulaire de la chaire de recherche Marcel et Roland Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique de l'Université de Montréal. Il souligne d'ailleurs que, malgré un certain mystère quant aux origines précises de l'autisme, des pistes et des informations scientifiquement prouvées existent. Il rappelle d'emblée qu'il existe deux grands types d'autisme. L'autisme dit syndromique, qui est génétique et représente environ 7% des cas à travers la planète, et l'autisme dit prototypique, qui représente environ 93% des personnes autistes. Ce dernier type est familial, explique le docteur Motron. Quand on a un enfant, chacun d'entre nous a une chance sur 100 d'avoir un enfant autiste. Et dès qu'on a un enfant autiste, la chance devient 1 sur 4 pour les enfants suivants. Après, ça passe à près de 1 sur 2, détaille-t-il. Or, cette charge familiale qui devient de plus en plus importante est observable de manière similaire partout sur la planète, et ce, peu importe les groupes ethniques ou la richesse des pays. Juste ça, ça exclut complètement la théorie du Tylenol, parce que, par définition, vous n'allez pas avoir la même exposition aux médicaments partout dans le monde, indique le chercheur. La leucovorine, solution magique? En plus de recommander l'abstention de la prise d'acétaminophène chez les femmes enceintes, Donald Trump a annoncé l'arrivée aux États-Unis d'un traitement contre l'autisme sous forme de leucovorine, un médicament qui agit sur le corps humain comme de l'acide folique, vitamine B9. C'est recommandé de prendre de l'acide folique pendant et avant la grossesse pour aider à prévenir des anomalies du tube neural, mais ce n'est pas une solution à l'autisme. On le fait déjà, explique la docteure Valérie Courchêne. L'autisme, c'est tellement génétique et neurodéveloppemental. Ça veut dire que le cerveau fonctionne complètement différemment, que tout est organisé différemment, que l'idée qu'on pourrait prendre quelque chose comme de l'acide folique et que ça change tout ça, c'est vraiment très peu réaliste, poursuit la neuropsychologue. Selon le docteur Laurent Motron, l'idée que la leucovorine puisse traiter l'autisme pourrait provenir d'études portant sur des enfants d'environ 3 ans qui se sont mis à parler peu après avoir pris le médicament. Il faut savoir que les personnes autistes, en général, ne parlent pas jusqu'à 3 ans et demi, puis commencent à parler un petit peu, souligne-t-il. Alors tout ce qu'on fera à l'âge de 3 ans aura l'air d'avoir aidé. Le chercheur Motron, qui travaille également comme clinicien, compare cette idée à celle qui fait porter le blâme de l'autisme au vaccin. Puisque les premiers signes de l'autisme deviennent visibles vers l'âge de 18 mois, moment qui coïncide avec la vaccination de beaucoup d'enfants, établir un lien entre ces événements pourtant distincts peut être tentant. Avant l'annonce de lundi, Donald Trump et son secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr., se sont longtemps inquiétés d'une hausse des cas d'autisme. Ce dernier avait même promis d'établir d'ici septembre les causes de ce trouble neurodéveloppemental. Or, cette hausse n'est en fait que le résultat des avancées scientifiques, soutient la docteure Valérie Courchêne. Non seulement on est rendu meilleur à détecter l'autisme, mais on a aussi élargi les critères, dit-elle. Puis, en plus, on a tendance à faire du dépistage chez tout le monde, maintenant. C'était « Le Tylenol ne cause pas l'autisme, contrairement à ce que dit Trump », un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 22 septembre 2025 dans Le Devoir.
L'impact de l'amiante sur la santé mentale pourrait être reconnu par la Cour, un texte de Julie Dufresne, paru le 25 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Une centaine de personnes disant vivre avec des séquelles psychologiques d'une exposition à l'amiante pourront faire entendre leurs arguments devant la justice, a statué la Cour supérieure. Ce recours collectif pourrait se traduire par un dédommagement et constituer un important précédent. Quand Caroline de Rosnay a appris en 2019 que sa fille a vraisemblablement été exposée à de l'amiante dans sa propre résidence, le choc a été total. J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir protéger mon enfant. Ça m'a coupé les jambes cette journée-là, se souvient-elle. Les larmes roulent sur ses joues lorsqu'elle apprend cette terrible nouvelle lors d'une assemblée de résidents. Devant les caméras d'enquête, il découvre que l'édifice Crane avait fait l'objet d'un désamiantage en 2015 sans les précautions réglementaires. Or, l'exposition à la poussière d'amiante, avait alors expliqué un épidémiologiste invité, entraîne un risque de développer un cancer comme le mésothéliome, pouvant se révéler des années plus tard seulement. Des images obtenues à l'époque par enquête montraient que les mesures appropriées pour isoler les travaux dans le sous-sol n'avaient pas été prises, permettant aux fibres d'amiante de circuler librement dans l'air de l'édifice montréalais, où logeaient des dizaines de résidents, dont Caroline et sa fille. La poussière d'amiante pouvait notamment remonter aux étages par l'ascenseur qu'elles utilisaient. On y voyait aussi des travailleurs retirer de l'amiante exposé, un cancérigène, sans porter les protections obligatoires, ce qui mettait à la fois leur santé en jeu et les transformait en source de contamination. Aujourd'hui, sa fille est âgée de 11 ans et elle est en pleine santé. Mais la seule idée que la maladie puisse se développer continue de la hanter. Je me voyais dans la poussière, dans l'ascenseur avec mon enfant.
Je me dis, je l'ai exposé, moi, explique-t-elle, encore incapable de retenir ses larmes. Je veux la voir grandir, je veux la voir se marier. L'enfant que tu mets au monde, tu veux juste son bien. Il y a un sentiment de culpabilité qui rentre en jeu. Le cancer, ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 40 ans. Et c'est une angoisse qui continue de savoir que mon enfant est exposé à ça et moi aussi. C'est ce nuage noir qui reste toujours en moi. Incapable de calmer ses inquiétudes, Caroline de Rosnay a intenté un recours collectif. Et la juge, Florence Lucas de la Cour supérieure, a récemment accueilli sa requête, qui devra maintenant être entendue sur le fond. Ce dossier pourrait être un précédent pour l'amiante, explique Maître Julia Garzon, qui représente le groupe, en ce que la Cour permet un recours collectif, reconnaît qu'une exposition à l'amiante, même minime, peut causer un dommage psychologique chez les individus qui ont été exposés. La juge note dans les images, les gestes, les paroles et les pleurs de la demanderesse, dans le cadre du reportage, le tueur caché derrière les murs, une anxiété exprimée aussi par d'autres personnes susceptibles d'avoir été exposées aux poussières d'amiante. Elle estime que la preuve présentée est suffisante pour faire la démonstration d'une cause défendable à compenser des dommages psychologiques relatifs aux craintes et appréhensions liées à l'exposition à l'amiante. La juge estime que plus d'une centaine de personnes ont pu être ainsi exposées, considérant la trentaine d'appartements en location, les activités résidentielles et commerciales, ainsi que les travaux de construction menés en parallèle, et ce, même avec la période limitée à la durée des travaux de désamiantage non conformes dans le sous-sol de l'édifice Crane. La Cour confirme qu'il est tout à fait raisonnable que ces membres-là aient souffert d'un préjudice psychologique en étant exposés à l'amiante, commente Maître Garzon. L'amiante, comme les TCE à Shannon. Dans sa décision, la juge estime précisément que les craintes et les inquiétudes liées à la santé peuvent, dans de rares cas, constituer un préjudice moral indemnisable. Elle fait un parallèle avec l'affaire de l'eau contaminée au trichloroéthylène TCE à Shannon, dans la région de Québec. Dans cette municipalité, les résidents, dont certains étaient atteints d'un cancer, avaient été informés que la nappe phréatique des puits privés de leur propriété, située près de la rivière Jacques-Cartier, était possiblement contaminée au TCE, un solvant longtemps utilisé sur la base militaire de Valcartier. Marie-Paul Piézer, une résidente de la municipalité, avait porté l'affaire devant les tribunaux. Même si, ultimement, aucun lien suffisant entre le TCE et les cancers recensés chez les citoyens de Shannon n'a été démontré, plus de 17 ans de bataille devant la justice auront finalement permis aux citoyens vivant dans la zone la plus fortement contaminée d'avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 60 000 $. Dans le cas de l'eau contaminée à Shannon, rappelle la juge Lucas, une aide psychologique a été offerte et les craintes et appréhensions étaient objectivement vérifiables. En l'espèce, le tribunal estime que la situation qui nous occupe à l'édifice Crane s'apparente à celle de l'affaire Spiezer, dans la mesure où la demanderesse et les membres, dès le mois de novembre 2019, ont été rencontrés par un épidémiologiste les informant des précautions à prendre afin d'éviter le déplacement de particules d'amiante dans l'air, vu leur impact néfaste sur la santé. Ces craintes ont été renforcées par les opinions des professionnels obtenues dans le cadre du reportage en 2020. Appelés à réagir à la suite de la publication de la décision, le copropriétaire de l'édifice Crane, Philip Kaufman, a refusé de commenter. En 2020, quand nous l'avions appelé dans le cadre du reportage, il avait nié avoir exposé les gens à l'amiante en toute connaissance de cause. Et lorsque nous lui avions montré les images d'un travailleur qui manipulait sans équipement de l'amiante exposé autour du réservoir pour le retirer avant une visite de la CNESST dans le sous-sol de son édifice, il avait dit ne pas reconnaître ces images. La ville et les organismes publics exonérés. Dans cette affaire, le concierge de l'époque, Stuart McAdam, avait tenté d'informer autant la Ville de Montréal que la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, la Commission de la construction du Québec, CCQ, et la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST. Des travaux bâclés. La CCQ était intervenue pour l'embauche de travailleurs non qualifiés. Les propriétaires ont dû verser 270 000 $ en salaire impayé. Selon nos informations, la CCQ avait également signalé la présence potentielle d'amiante à la CNESST, qui nous avait confirmé qu'il y avait eu une plainte et une visite, mais qu'aucun arrêt des travaux n'avait été ordonné. Comme les propriétaires, ces organismes publics étaient tous initialement visés par le recours. Mais ils en ont tous été écartés par la juge. Elle a estimé que la preuve ne permettait pas de démontrer leur responsabilité quant à l'exposition à l'amiante. Ils ont tous préféré ne pas commenter la décision. Ces organismes publics, c'est difficile au niveau juridique, parce qu'il faut que ça soit une faute qui est plus élevée au niveau de la jurisprudence, explique Maître Julia Garzon. Certains organismes bénéficient d'une immunité, ce qui fait en sorte que quand on exerce notre mandat de bonne foi, on est protégé, on ne peut pas se faire poursuivre. Pour la suite des choses, l'avocate invite quiconque pense avoir été exposé à de l'amiante lors des travaux de désamiantage entre le 23 décembre 2014 et le 12 juin 2015 à l'édifice Crane à se manifester auprès d'elle. Il peut s'agir d'usagers, de locataires ou de personnes qui habitaient l'immeuble situé au 2240-2250 rue Pitt ou au 3800 rue Saint-Patrick à Montréal. Les visiteurs ou les clients de l'immeuble peuvent également la contacter. Tous doivent être résidents du Québec. Quelle que soit l'issue de ce recours collectif, l'Association des victimes de l'amiante du Québec, la VAC, estime que cette cause rappelle l'importance, encore aujourd'hui, d'encadrer adéquatement les travaux de rénovation qui risquent de mener à des expositions à l'amiante, que ce soit intentionnellement ou non. La VAC tient à souligner l'importance de l'action collective entreprise par des résidents à l'immeuble Crane à Montréal, a indiqué le président par intérim, Paul Brosseau. Il souligne que le sujet demeure malheureusement d'actualité, à preuve, vendredi sera la journée de sensibilisation au mésothéliome. Ces résidents ont été exposés à la fibre d'amiante lors des rénovations entreprises dans leur immeuble sans mesure de prévention appropriée. Il est essentiel d'instaurer des moyens de prévention très rigoureux pour tous, autant pour les travailleurs effectuant les travaux que pour les résidents des immeubles où sont effectués les travaux. Pour Caroline de Rosnay, la bataille s'annonce longue et vraisemblablement peu payante. Mais elle en fait une question de principe. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de prendre responsabilité pour les actions qui ont été posées. C'était « L'impact de l'amiante sur la santé mentale pourrait être reconnu par la Cour », un texte de Julie Dufresne, paru le 25 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Discrimination. La Cour supérieure autorise une action collective contre Uber. Un texte de Martin Jolicoeur, paru le 18 septembre 2025 dans le Journal de Montréal. La Cour supérieure du Québec a officiellement autorisé une action collective contre Uber à la suite d'allégations selon lesquelles ses services de transport ne sont pas accessibles aux personnes ayant un handicap physique. La décision communiquée aujourd'hui a été rendue par la juge Marie-Christine Yvon il y a un peu plus d'un mois. Un avis officiel expliquant en détail les conséquences de l'autorisation de ce recours par la voie d'une action collective doit être émis prochainement. Déposé par Laurent Morissette, membre actif du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC, cette demande vise à obtenir une compensation financière pour les personnes touchées ainsi qu'un jugement obligeant Uber à améliorer ses pratiques de transport à l'égard des personnes en situation de handicap. Les services réguliers d'Uber et d'Uber WAV, pour Wheelchair Accessible Vehicle, en apparence accessible, seraient dans les faits largement indisponibles pour les personnes en situation de handicap. Je suis fermement convaincu que cette première étape de notre démarche constitue l'impulsion nécessaire au moteur de l'évolution sociale, nous permettant enfin d'être reconnus non seulement comme des consommateurs, mais comme des citoyens à part entière, dignes du même respect que tout le monde, a déclaré M. Morissette par voie de communiqué. Maître Sarah Turner, associée chez Slater Vecchio, s'est réjouie de cette décision et de l'opportunité qu'elle offre de rendre justice. « Nous sommes pleinement engagés à travailler avec rigueur pour répondre aux attentes de M. Morissette et de tous les membres du groupe et à défendre l'équité à laquelle ils ont droit. » C'était « Discrimination ». La Cour supérieure autorise une action collective contre Uber. Un texte de Martin Jolicoeur, paru le 18 septembre 2025 dans le Journal de Montréal. «